Chapitre 60. Ravine du Bois Malère, bouillante, 18h. La journaliste a troqué sa tenue de plaisancière antillaise pour un jean moulant et un chemisier blanc. Changement saisissant. Contraste troublant. Attirante et dangereuse. Valérix s'avance. La prudence est mère de lâcheté.
Bonjour, Mado. Savez-vous que je viens de me faire taper sur les doigts à cause de vous? Interdiction officielle désormais de collaborer.
Mado sourit, sûre d'elle.
Nous aurions collaboré, commandant?
Interdiction de vous parler.
Allons, Valérix. Je ne représente plus aucun danger. Mon site aquantiel a été fermé. Ordre de la République pour maintenir l'ordre public.
Vous en ouvrirez un autre demain matin.
Mado rit franchement cette fois.
Bien entendu. Je n'ai pas d'affection particulière pour le monde moderne, mais il faut au moins lui accorder ce progrès. Il est aujourd'hui impossible d'empêcher la vérité de circuler. Qui veut la connaître trouvera toujours un moyen de s'informer.
Je lis vos éditos, Mado. Celui de ce matin en particulier. On pourrait presque croire que vous admirez le tueur. Et je refuse de vous suivre quand vous sous-entendez que l'État ait pu faire exploser ce Boeing 707.
Je ne sous-entends rien, Valérix. Je ne suis qu'une lanceuse d'alerte. Je me contente de poser des questions, d'énoncer des faits. Nous sommes tous soumis à une propagande de masse. En accusant de complotisme tous ceux qui luttent contre elle, c'est notre capacité à douter que l'on veut briser. Mais
Mado s'amuse visiblement.
Je croyais que vous aviez interdiction de me parler.
Imaginez si quelqu'un nous voyait. La rue est déserte, mais n'importe qui peut surgir.
Vous voulez déjà me quitter ?
S'étonne Valérix.
Mado observe le jeu des clés, briller dans la main du commandant.
Au contraire, vous m'invitez à entrer ?
Ravine du Bois Malère, bouillante, 18h03.
Mado a poussé les coussins de madras et s'est installé sur le canapé.
Valérix a accroché son fedora près de la porte et tiré une chaise pour se placer face à elle.
À 2 mètres. La distance qu'il a estimée être le juste périmètre de sécurité. Il a trouvé dans un placard une vieille bouteille de rhum arrangé. Mangue cannelle. 21 ans d'âge minimum, à moitié vide. Bien assez pleine pour trinquer.
Valérix est conscient qu'il déconne. Il n'aurait jamais dû laisser entrer cette journaliste chez lui. Il devait dormir pendant ces quelques heures de pause. Il ne peut s'empêcher de repenser aux paroles de ce crétin de Le Cocu. Proximité inappropriée. En quoi Marie-Douce serait-elle moins fréquentable que n'importe quel flic, fonctionnaire, médecin ou autre journaliste de Lille? Parce qu'elle défend des positions radicales? En quoi cela concerne-t-il la police? Un flic n'a pas le droit d'être réac ou communiste ou anticolonialiste du moment qu'il fait correctement son métier? Il connaît la ligne rouge. Ne rien révéler de l'affaire. Et ce n'est pas en vidant un demi-verre de rhum qu'il va la franchir.
Marie-Douce n'y a pas encore touché. Elle scanne la case du regard et finit par s'arrêter sur la photographie des parents de Valérix, devant la cascade du Trois Diables. Le commandant résiste à l'envie de se lever pour aller décrocher le portrait.
Vous avez vraiment connu ma mère, Mado? Ou c'était une ruse pour m'approcher?
Le regard sépia de la journaliste se fait infiniment tendre.
Je l'ai vraiment connue. Elle vous ressemblait.
Vraiment ? S'amuse Valérix.
Les points communs entre son visage clair de chabin et la peau ridée de sa mère ne lui paraissent pas frappants.
Oui, vraiment. Vous possédez tous les deux cette aptitude rare à vous sacrifier.
Valérix accuse le coup. Ainsi Mado n'a pas menti. Elle pose son verre sur la table basse, traverse la pièce pour aller chercher une chaise et la pose 1 mètre en face de celle du commandant. Bien à l'intérieur du périmètre de sécurité.
Racontez-moi, Valérix. J'ai envie d'entendre votre version, pas celle qu'on colporte dans le quartier.
Une dernière fois, le policier hésite. Il y a d'autres urgences. Il doit se reposer, et pourtant, il se voit vider son verre, frissonner quand l'alcool au parfum de cannelle lui brûle le palais. Il ne parvient à lâcher le regard insistant de la journaliste que pour fixer le portrait de ses parents. Celui où son image a été déchirée.
Il n'arrive pas à repousser cette voix qui insiste.
« Pourquoi te taire ? Ton histoire personnelle n'a rien à voir avec l'affaire. »
Il se laisse une dernière fois hypnotiser par les yeux de Madou, et la digue se brise. Une crue de souvenirs, un flot de mots que rien ne semble pouvoir arrêter.
« Je porte le prénom de mes deux parents, Valérie et Eric, fils unique. Mes parents m'aimaient, beaucoup. Je les aimais tous les deux autant que chacun m'aimait. Deux fois plus, donc. J'admirais ma mère, la plus parfaite des potomitans, comme on dit ici. La femme qui soutient sa maison, sa famille, son quartier, son île. J'admirais plus encore mon père. Je voulais lui ressembler. Chasser comme lui, pêcher comme lui, nager comme lui, boire comme lui. J'avais 16 ans, je crois, quand j'ai compris. Quand j'ai remarqué pour la première fois les hématomes sur le visage de ma mère. Mon père s'arrangeait toujours pour l'abattre quand j'étais à l'école, au collège, au lycée. Jamais le week-end, jamais devant moi. J'ai mis des années à accepter la vérité. J'ai plusieurs fois essayé d'en parler à ma mère. Jamais elle ne m'a répondu. Si j'insistais, elle haussait le ton. De quoi te mêles-tu? Ce qui se passe dans la chambre des parents ne regarde pas les enfants. Même si tu as aujourd'hui 19 ans, étudie, mon fils. Tu as la chance d'apprendre vite. Choisis un beau métier. Trouve une femme que tu aimes. Fabrique-toi une belle vie, mais ne viens pas te mêler de la mienne. Je ne suis pas malheureuse. Dieu m'a donné le plus intelligent des fils et le plus fort des maris. Alors construis-toi un bel avenir sans te retourner. Je serai heureuse, la plus heureuse des femmes, si tu l'es. Je l'ai écouté. Je me suis éloigné. J'ai étudié le droit à Pointe-à-Pitre. Je suis entré à l'école de police. Je revenais de moins en moins souvent à Bois-Malère. Chaque fois avec la boule au ventre, la gorge sèche. Mon père buvait de plus en plus. À Noël, j'ai retrouvé ma mère avec le bras en écharpe, coude brisée, pour quelques chats trop cuits. Impossible de pas le deviner. L'été suivant, elle a failli perdre un œil, un éclat de verre de lunettes planté dans l'iris. J'ai juste raté une marche, mon fils. Je me fais vieille, tu sais. Je l'ai supplié une fois, deux fois... 10 fois, dès que mon père n'était pas là, de porter plainte. Elle refusait. Elle niait. Elle finissait par me mettre dehors avant qu'il rentre, et j'acceptais. Car je savais que si je croisais mon père, si je le défiais du regard, c'est sur elle qu'il se vengerait. J'ai décidé d'agir quand je suis entré en 3e année d'école de police. Je pouvais plus continuer à aider des inconnus, des mères, des filles, des gosses, à les tirer des griffes de salauds qui les brutalisaient, et fermer les yeux sur les souffrances de ma propre mère. J'ai patiemment collecté des preuves, des témoignages du voisinage, consigné des faits précis et j'ai porté plainte contre mon père. Ma mère n'a pas voulu témoigner contre lui, a tout nié, mais le juge a tout de même condamné mon père. Les preuves étaient accablantes, la soumission de ma mère évidente. Il a été incarcéré à la prison de Bemao, 5 ans ferme. Pour ma mère, l'enfer cessait. C'est ce que je croyais. Elle ne m'a jamais pardonné. Le lendemain du procès, quand je l'ai raccompagnée chez nous, elle m'a simplement dit « Comment as-tu pu jeter ton père en prison ? Nous t'avons élevé ensemble, et tu nous sépares. Ne remets plus jamais les pieds ici. J'ai aimé ton père bien avant toi, et je l'aimerai toujours. » Mon père n'est jamais sorti du centre pénitentiaire de Bemao. Ma mère ne l'a plus revu que derrière la vitre d'un parloir. Il est mort 3 ans plus tard, de fatigue, de manque d'alcool et de lumière. Oui, il s'est laissé mourir. J'étais déjà en métropole. Je suis pas rentré en Guadeloupe pour son enterrement. Ma mère ne m'a pas invité. Elle ne m'a même pas prévenu. Elle ne m'a pas prévenu non plus il y a 10 mois quand le cancérologue lui a annoncé qu'elle était condamnée. Ce sont les voisins qui m'ont écrit quand elle a été hospitalisée. Je suis arrivé trop tard. Elle était déjà dans le coma, incapable de me reconnaître, même si elle l'avait voulu. Je vous dirai pas, Madou, si j'ai pleuré, si je me suis maudit, si je me suis demandé ce que je faisais là, loin de chez moi, mon autre chez moi en Normandie, là où habitent mon ex-femme et mes enfants qui ne connaissent pas cette île, qui ne connaîtront jamais leurs grands-parents, cette île dont j'ai eu honte, ouais, honte si souvent. En veillant ma mère, j'ai compris que je m'étais trompé toutes ces années, J'avais pas honte de la Guadeloupe, j'avais honte de moi. On croit toujours bien faire, Madou. Même les tyrans croient bien faire. Les pires catastrophes sont toujours provoquées par des gens bien intentionnés.
Marie-Douce n'a pas prononcé un mot pendant la longue confidence du policier. Elle continue de le fixer avec une tendresse désarmante, presque gênante.
« Et vous ?»
demande Valéric.
« Parlez-moi de vous, Marie-Douce. »
« Une autre fois. » Valéric remarque qu'elle n'a pas touché son verre de rhum.
« Que fait-on alors ? Je vous propose pas de boire. »
La journaliste sourit. Pour la première fois, le policier semble percevoir une faille dans sa cuirasse de matador, une fragilité. Quoi qu'elle en dise, la fermeture administrative de son site l'a forcément touché. Valéric tente de sonder, de tout l'éclat de ses yeux clairs, le regard brun de Madou.
Je pourrais vous proposer de passer la nuit ici.
Une ombre voile les iris de la journaliste, une brève éclipse. Un petit nuage triste, avant qu'il ne brille à nouveau de toute leur intensité. Pour collaborer. Désolé, commandant. Vous avez un meurtrier à arrêter. Je doute que le moment soit très approprié. Valéric se sent idiot. Il hésite à vider le verre de Marie-Douce. Il n'a pas flirté avec l'ivresse depuis des années. Ce n'est pas cette nuit, surtout pas cette nuit, qu'il va recommencer.
Vous avez raison, Madou. D'ailleurs, j'avais pas prévu de passer la nuit ici. Je dois être à la prison de Bemao dans...
Il consulte sa montre.
2 heures.
Marie-Douce se lève, déterminée. Venez, la nuit est tombée. Allons marcher. Plage de Malendure, bouillante. 19h11. Madou et Valéric marchent sur le sable noir de la plage de Malendure. Noir comme la nuit. Noir comme le maître d'obscurité qui les sépare. Le policier a hésité un instant à prendre la main de la journaliste, puis à renoncer. Proximité inappropriée. Il ne perçoit de Madou qu'une fragrance vanillée, une silhouette sombre qui éteint les étoiles, le rythme étouffé de ses pas, une voix qui bouleverse la nuit. Nous avons ce point commun, Valéric. Avoir joué sur cette plage pendant notre enfance. Le commandant se tourne vers les vagues, les entend à défaut de les voir. Toutes les îles, tous les îlets ont disparu.
Mais nous ne sommes plus des enfants. Nous avons pris des chemins différents.
En êtes-vous si sûr, commandant ? Valéric n'est plus certain de rien. Il lève les yeux et cherche la croix du sud, sans la trouver. Les 4 étoiles de son cerf-volant céleste semblent s'être éteintes, elles aussi. Le policier et la journaliste, pendant de longues secondes, laissent le lent mouvement de l'océan remplir le silence. Madou est la première à le briser. Vous avez eu raison pour votre maman. Porter plainte contre votre père était la meilleure des décisions. Il l'aurait tué. Il n'y a pas de plus grand amour, vous savez. Accepter de perdre les gens pour les sauver. Valéric se laisse bercer par les mots, par les vagues. Je suis comme vous, poursuit Madou. Je prends le risque de dire les choses telles que je les crois. J'accepte qu'on ne m'aime pas, qu'on m'insulte et qu'on me bannisse, pour sauver cette île. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. L'ombre de la journaliste tourne autour de lui. Le commandant enfonce sa main dans la poche de son pantalon, lui ordonne d'y rester, de ne pas rechercher celle de Madou à tâtons.
Non, se défend Valéric. Je ne sais même pas si j'appartiens à un camp. Je n'ai aucun avis sur toutes ces questions qui passionnent vos lecteurs. Le néocolonialisme, le communautarisme, ces deux extrêmes me font tout autant peur.
Je vous fais peur ?
Valéric devine un profil à quelques centimètres de lui, une bouche, un souffle, une poitrine.
Oui. Seulement peur ?
Non. Vous m'attirez aussi. C'est peut-être ce qui me fait peur, d'ailleurs.
Toutes les étoiles se sont éteintes. Madou s'est approchée et a avalé la nuit. Moi, non. Je n'ai peur de rien, jamais. Je vais vous laisser, Valéric. J'ai un nouveau blog à rédiger et vous, un quimboiseur à veiller. Ce serait tellement plus simple si vous croyiez à la magie.
Personne n'y croit. Ni vous, ni moi. Oh, si. La magie existe. Ici. Vous en voulez une preuve, monsieur le commandant ?
La journaliste se penche et l'embrasse dans la nuit. Un baiser aveugle qui se pose sur un coin de lèvres. L'instant d'après, elle disparaît.
Proximité inappropriée.
Centre pénitentiaire de Bemao, minuit. Le commandant Cancel est le seul à veiller dans le poste central du centre pénitentiaire de Bemao. Il somnole depuis 2 heures devant les écrans. Évariste Pigeon dort dans sa chambre de verre. Il se prend à espérer que le quimboiseur ne se réveille pas, qu'aucun nouveau fantôme ne vienne le hanter, qu'aucune image de mort ne vienne l'hypnotiser. Il ne cesse de repenser à cette date clé, du 5 au 11 avril 2003. Il ne cesse de repenser au procès de son père, à son incarcération dans cette prison, aux 3 ans qu'il a passé ici sans jamais sortir, jusqu'à y mourir. Il ne cesse de repenser à cette bouteille de rhum arrangée, 21 ans d'âge. Vidée à moitié, jamais terminée. Il devine que quelque chose se cache dans son cerveau. Une information dissimulée, une vérité refoulée. Ce n'est pas ainsi en piquant du nez toutes les 3 pensées qu'il va la déterrer. Il se lève, fait le tour de la pièce, hésite à boire un nouveau café.